Chapitre 15. Il était 1 heure lorsque Jean-Noël quitta sa mère et son frère, non sans s'être efforcé de les remonter par de nouvelles promesses. Les rues étaient presque désertes. Il se hâta de rentrer afin de ne pas arriver en retard à l'étude où, déjà, il n'avait pas paru le matin. Il ne songeait plus à son frère car il oubliait vite ceux dont il n'avait momentanément rien à craindre. Annie seule occupait son esprit. Qu'était-il donc arrivé avenue de Malakoff pour qu'Émile, que rien d'habitude ne parvenait à émouvoir, se fût laissé abattre ainsi? Madame Mourier n'avait pas le téléphone. Il se trouvait chez la concierge, à l'immeuble. En passant devant la loge, Jean-Noël demanda si on ne l'avait pas appelé dans la matinée. La concierge ne put lui répondre. Aussitôt en présence de Laure, il lui raconta ce qui venait de se passer. Puis il déjeuna rapidement, sans appétit. Madame Mourier lui demanda pourquoi il était si pressé. Il répondit qu'il avait beaucoup de travail. En réalité, il était impatient de savoir si Annie lui avait téléphoné, mais il n'osait l'avouer, Laure s'étant étonnée plusieurs fois que Madame Ettlinger, quand elle avait une communication à faire à son beau-fils, téléphona à l'étude et non rue Laugier. Dès qu'il arriva rue de Clichy, on lui transmit la commission d'Annie. Mais Maître Préfil avait dû se rendre à la chambre des notaires. Vers 5 heures de l'après-midi seulement, Jean-Noël put quitter l'étude. L'émotion et la peur lui faisaient de temps en temps hausser une épaule. Comment allait-il être reçu? Il avait beau se raisonner, se persuader qu'il n'était pas responsable des faits et gestes d'Émile, il se sentait coupable. En temps ordinaire déjà, quand il allait chez sa belle-mère, son cœur se serrait. Il ne prit pas l'ascenseur. Lentement, il monta l'escalier, 3 fois plus large que celui de la rue Laugier, et éclairé par des torchères. Devant la porte de l'appartement des Villemur, il s'appuya un instant sur la table dont la présence sur le palier l'avait jadis surpris. Il fut introduit dans le cabinet de travail. M. Villemur l'y rejoignit peu après. « Vous venez voir Annie ?» demanda-t-il avec une grande douceur qui frappa Jean-Noël, car celui-ci avait gardé du père d'Annie le souvenir d'un homme autoritaire. « Oui, monsieur. Vous a-t-on annoncé ?» M. Villemur s'assit à son bureau, sans plus se préoccuper du visiteur, et, après avoir mis des lunettes, feuilleta quelques papiers bancaires. De la demi-obscurité où il se trouvait, Jean-Noël observait. Le visage de M. Villemur était éclairé par une lampe posée près de lui. Un grand calme s'en dégageait. En même temps qu'il fut saisi de cette pitié que provoque en nous la puissance sociale, quand, comme chez un vieillard ou un mourant, elle ne fait qu'accentuer notre fragilité, Jean-Noël songea à ce que cela avait d'étrange que cet homme, qui ne pouvait ignorer ce qui s'était passé le matin, qui peut-être avait lui-même fait chasser Émile, se montra devant lui comme devant un intime. Parfois, M. Villemur tournait la tête vers le visiteur, mais il ne l'apercevait pas, ébloui qu'il était, par la lumière répandue sous ses yeux. Finalement, il se leva. « Il me semble qu'Annie vous oublie. « Je vais aller la chercher. » Quand il revint, après une absence assez longue, il dit avec la même douceur « Vous savez où est sa chambre? Ma fille vous attend. » Cette petite scène avait donné du courage à Jean-Noël. Puisque M. Villemur était si aimable, rien de grave ne s'était passé. Mais, à la vue de sa belle-mère, il se rembrunit. Droite, immobile au milieu de sa chambre, elle était visiblement en proie à une grande émotion. « Je t'attendais avec impatience, » dit-elle à Jean-Noël, qui, le seuil à peine franchi, s'était arrêté. Loin de la calmer, les quelques heures qui s'étaient écoulées depuis le départ d'Émile avaient accru sa colère. « Veux-tu m'expliquer en peu de mots ce que tout cela signifie ?» Jean-Noël simula de l'étonnement. « Ton frère est venu ici tout à l'heure, » continua-t-elle, en personne décidée à ne pas prendre au sérieux les malices de son interlocuteur. « Je le sais, » répondit Jean-Noël, « je viens de le voir. Justement, je voulais te demander ce qu'il t'a dit. » Annie eut l'impression que son beau-fils lui jouait la comédie. Non seulement il savait ce qu'Émile était venu faire avenue de Malakoff, mais c'était sans doute lui qui l'avait envoyé. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas empêché de venir, » ou du moins, pourquoi tu ne m'as pas prévenu ? Je viens seulement de le voir. Je ne savais absolument rien. Ah, mon pauvre Jean-Noël, si tu avais été présent, il ne voulait plus partir. Mon père a dû appeler les domestiques. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu. Il ne voulait vraiment pas partir, demanda Jean-Noël, cependant qu'il pensait à la scène pénible qui s'était déroulée rue Mouton-Duvernay et qu'il avait le remords de taire. Il a parlé d'une lettre que ton père aurait écrite à ta mère. Est-ce que tu as lu cette lettre ?
Quelle lettre ?
Je ne sais pas, je ne sais pas. Comment veux-tu que je sache ? Je t'interroge. As-tu lu cette lettre ?
Je n'en ai jamais entendu parler.
Comment ? Tu vois ta famille presque tous les jours et on ne t'a jamais parlé de cette lettre ?
C'est bien. D'ailleurs, tu sais parfaitement qui est la cause de toutes ces histoires. Cette existence ne peut plus continuer. On vient me chercher ici, maintenant, chez mon père. On s'imagine que je suis riche alors que je ne possède plus rien. Que voulez-vous donc tous ? Ne trouvez-vous pas que j'ai assez fait pour vous ? Je ne peux plus, tu m'entends ? Je ne peux plus rien supporter. Ce que je vous demande, c'est de me laisser en paix simplement. Ce n'est pas grand-chose pourtant, et je ne peux pas l'obtenir.
Pourquoi me dis-tu cela à moi ? Je te comprends si bien. Jean-Noël avait prononcé ces derniers mots sur un tel ton qu'Annie s'arrêta surprise. La sincérité de son beau-fils l'avait frappée et lui avait fait, malgré tout, un certain plaisir. Jean-Noël n'était après tout pas un mauvais garçon. Ce qu'elle lui reprochait, c'était ses élans et ses airs d'acteur qu'il avait à certains moments. Il partait d'un fond généreux et enfantin, c'était entendu, mais il n'en était pas moins insupportable. Il trahissait un manque de scrupules, une volonté de s'imposer à la faveur de sentiments prétendus élevés, un manque de tact dont l'exemple le plus frappant était cette idée saugrenue de faire transporter à Paris le corps de Jean Melchior. Annie était convaincue que la raison de l'attachement de son beau-fils provenait plus de ce qu'elle représentait que de ce qu'elle était réellement. C'était pour cela qu'elle se lamentait sur son sort, qu'elle prévenait tous ceux qui l'approchaient qu'elle était ruinée, car elle en avait assez d'être une grande dame pour petites gens. Cela devenait ridicule. Elle n'aspirait qu'à être traitée comme tout le monde, ni mieux ni moins bien. Finalement, Annie se calma. N'était-il pas visible que Jean-Noël était profondément peiné de ce qui était arrivé et que, s'il était en quelque sorte responsable de la visite d'Émile, c'était bien malgré lui ?
« Je sais, dit-elle à voix basse, que ce n'est pas ta faute. »
« Je te suis reconnaissant de le constater, » répondit Jean-Noël en s'efforçant de prononcer cette parole avec fermeté, sa belle-mère ayant horreur des effusions. « Tu n'as aucune raison de m'être reconnaissant de quoi que ce soit. Si je ne pensais pas que ce n'est pas ta faute, je ne te l'aurais pas dit, » continua-t-elle. Car dans son esprit, la reconnaissance ne se rencontrait que chez des gens douteux dont les fautes amenaient des pardons et ces pardons de la reconnaissance. Puisqu'elle était si bien disposée en faveur de Jean-Noël, et qu'elle ne pouvait l'être que s'il s'était conduit correctement, il n'avait pas commis de faute. Il était donc inutile qu'il lui fût reconnaissant. « Il est nécessaire que je te parle sérieusement. J'ai beaucoup réfléchi cet après-midi. Je suis sûre que tu partageras ma façon de voir. Il faut, tu m'entends, il faut absolument que toutes ces histoires cessent. » Je trouve extraordinaire que 10 ans après la mort de ton pauvre père, je puisse encore être en butte à la haine de ta famille. La vie sous cette menace perpétuelle n'est plus possible. Bien que, sans doute, tu ne t'en rendes pas compte, c'est un peu ta faute. Il serait donc sage, je crois, que tu ne viennes plus ici pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, je ne sais pas, c'est ce que nous verrons. Si toi tu ne t'occupes de personne, ta famille, ta femme, tes amis, Madame Mourier, tout le monde est à l'affût de chacun de tes gestes. On sait que je m'intéresse à toi. Dans l'esprit de ces gens, je ne parle pas de Laure, qui est très bonne et qui est pour toi une excellente camarade. Je suis une sorte de bureau de bienfaisance. Je ne sais pas tout ce qu'ils imaginent, mais certainement ils pensent que je te donne de l'argent en cachette. Ils se disent « Pourquoi seulement à lui ? Pourquoi pas à nous aussi ?» La jalousie aidant, ils en arrivent à nous détester autant l'un que l'autre. Mais du jour où nous cesserons de nous voir, on m'oubliera.
Je vais même plus loin, je crois que cela te sera utile. Tu as 27 ans, tu as besoin de prendre conscience de ta valeur. Si, pendant quelques années, tu te sens vraiment seul, si tu sais que tu ne peux compter que sur toi-même, ton caractère y gagnera en fermeté. C'est justement ce qui te manque le plus, la fermeté. Quant à moi, je continuerai à travailler comme je l'ai toujours fait. Te souviens-tu de l'Atlas qui t'amusait tant quand tu étais enfant ? Madame Ettlinger avait entrepris un travail au-dessus de ses forces. Il s'agissait rien moins que d'un atlas sur les cartes duquel seraient peints en miniature, et cela depuis la création, tous les événements saillants dans les lieux mêmes où ils s'étaient passés. Jean-Noël avait écouté sa belle-mère avec beaucoup d'attention, en l'approuvant de temps en temps. « Et plus tard, quand nous aurons retrouvé notre équilibre, nous n'aurons que plus de plaisir à nous revoir, » conclut-elle. C'était en croyant tenir le langage le plus raisonnable qui fût que Madame Ettlinger avait proposé cette sorte de marché à son beau-fils. S'il ne lui était pas venu à l'esprit qu'une séparation faite dans des conditions semblables avait quelque chose d'inhumain, c'était que toute sa vie, elle avait considéré la séparation en soi comme le meilleur remède à tous les malentendus. Jean-Noël ne répondit pas. Qu'allait-il devenir sans sa belle-mère ? Bien qu'il y eût toujours eu de nombreux conflits entre Annie et lui, elle n'en était pas moins la seule personne au monde qui lui tenait à cœur. Elle était toute sa famille, sa raison d'être, parce qu'il l'aimait, et qu'elle était le seul lien qu'il eût avec un milieu où il n'était pas admis et auquel il aspirait d'appartenir. Grâce à Annie, la vie médiocre qu'il menait lui était supportable. Cette estime dont elle le faisait bénéficier et dont l'importance était telle à ses yeux qu'il ne se plaisait que parmi ceux qu'il avait pour lui, faudrait-il qu'il s'en passât ? Allait-il devenir semblable à Madame Mourier, à Maître Préfil, au collaborateur de celui-ci, à Émile ? Jusqu'à présent, pour son entourage, il avait été un être particulier sur lequel la fortune demeurait suspendue, du moins se l'imaginait-il. Mais demain, au plus mauvais jour, il ne s'était jamais senti aussi perdu. Il avait eu le sentiment qu'il dépendait de lui, que son isolement cessa. Aujourd'hui, c'était Annie qui se séparait de lui, si froidement qu'il n'avait même pas la force d'élever une protestation.